France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura, réalisé par Perret Legras avec Alexandre Dang à la technique. Ce soir, on révise. Alors, quelles nouvelles ressources pour se préparer aux examens universitaires, aux concours, au bac français et bien sûr aux épreuves de spécialité du bac, un grand sujet depuis longtemps.
Qu'est-ce qui va pas encore?
Là, faut faire une intégration par partie ou...
Mais t'es bête, c'est des polynômes, c'est très simple. UN, sa primitive, c'est n plus 1 facteur de u à la puissance n plus 1.
On se sent comment la veille du grand jour?
C'est très très dur. Hein. C'est de plus en plus angoissant.
Les problèmes se bousculent?
Bah oui, là, des petits trucs apparemment simples, ça trotte dans la tête, on voit plus du tout ce que ça donne. C'est complètement différent, quoi.
Le bachotage, c'est aussi beaucoup d'argent. Entre la petite calculatrice autorisée à l'examen, les heures passées sur les tests du Minitel, les livres d'exercice achetés en catastrophe et les cours privés SOS dernière heure, les parents de Jean-Jacques et d'Elisabeth ont dépensé près de 5000 francs pour que leurs enfants puissent tout essayer.
Et le marché de la révision a bien changé depuis 1988 et le Minitel, quand les élèves s'appelaient encore Jean-Jacques et Elisabeth, c'est maintenant, au début du troisième trimestre, que les élèves et étudiants vont commencer à penser à leur révision, un peu plus tard peut-être, ça dépend du sérieux, du sens de l'organisation, d'où on en est dans Parcoursup par exemple, mais l'émission qui sera riche de conseils restera longtemps disponible en podcast. Avec nos invités, nous allons nous demander comment les réseaux sociaux peuvent aider ou non, les étudiants, les élèves, à mieux travailler. Nous allons surtout nous intéresser au contenu produit par des jeunes gens, produit par des élèves eux-mêmes, même si on sait, hein, les enseignants sont très très présents sur les réseaux. Donc des jeunes qui proposent une nouvelle forme de travail entre pairs. On appelle ça l'enseignement mutuel en jargon pédagogique. Alors qui sont ces influenceurs et influenceuses révision qui promettent parfois des notes incroyables? Comment faire le tri entre ceux qui donnent des conseils pour le plaisir, ceux qui vendent des fiches? Tout ça, en tout cas, rapporte. Ainsi, TikTok organise demain un événement « Apprendre sur TikTok », j'ai dit déjà deux fois le nom de la marque, pour mettre en avant des contenus qui font vivre les plateformes et s'y monétisent. Côté service public, Radio France propose de nombreux podcasts aux lycéens et étudiants en vue des examens pour améliorer leur culture générale ou travailler des points, des programmes avec les meilleurs spécialistes de toutes les disciplines. On vous en dira un mot en fin d'émission avec Lisa Vaturi qui s'occupe de tout ça dans la maison. Je salue les invités qui sont en studio. Imène Bounou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondatrice du compte Instagram Grimpe. Aujourd'hui, vous êtes consultante en communication. Vous avez même été stagiaire au service com de France Culture. Vous parlez donc aujourd'hui davantage boulot, mais vous avez longtemps parlé études et même mode de vie.
Tout à fait.
Étudiant, est-ce que vous grandissez en quelque sorte avec les gens, là, votre communauté, je ne sais pas si vous les appelez comme
bien
ça.
Bien sûr, ils m'ont connue à 20 ans, j'en ai 26 désormais, donc oui, j'ai grandi avec eux.
Et vous continuez vous aussi à regarder des contenus sur les études?
Toujours un peu, oui.
Ah bah on va en parler ensemble ce soir. On va aussi discuter de tout ça avec Anne-Claudine Oller, sociologue.
Bonsoir.
Bonsoir. Maîtresse de conférences en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Est-Créteil. Et je prends mon souffle pour donner le nom de votre laboratoire. L'IRTES, laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les transformations des pratiques éducatives et des pratiques sociales. On est pile poil dans le sujet et j'indique que vous avez publié un livre extrêmement intéressant sur le coaching scolaire, un marché de la réalisation de soi en 2020 au PUF. On va peut-être en parler également avec nous également et merci beaucoup d'être ici ce soir. Antoine Vassas, rédacteur en chef vidéo de l'étudiant,
vidéo,
qui
fut
un magazine, qui est aujourd'hui un site, même s'il y a beaucoup d'articles également à lire, beaucoup de vidéos parce que les révisions et le conseil en révision a changé ces dernières années et s'exprime beaucoup, bien à part des images.
Oui, effectivement, on sait qu'il y a 6 jeunes sur 10 à peu près qui s'informent essentiellement en vidéo. TikTok, c'est... En plus d'être une plateforme, c'est un moteur de recherche. Et donc, effectivement, ça a bouleversé pas mal le moyen de réviser. Et sachant que nous, les étudiants, on est un média qui a 50 ans, on essaye justement de s'adapter à ces changements et de trouver les solutions pour accompagner au mieux les élèves et les étudiants.
Donc, accompagner les élèves d'aujourd'hui, c'est produire des vidéos.
Ouais.
C'est aussi produire, si je comprends bien, des vidéos d'étudiants. eux-mêmes, et c'est un de mes points importants ce soir, bien sûr, il y a plein de profs, et c'est très bien, mais ce sont aussi beaucoup les jeunes que vous mettez en avant aujourd'hui pour augmenter votre audience.
Oui, oui, on a effectivement d'une part notre rédaction, et puis on va aussi aller chercher des jeunes pour qu'ils témoignent, pour qu'ils apportent parfois leur expertise. Bon, souvent, c'est effectivement des influenceurs studies. Rien que cette semaine, là, je sais que j'ai une influenceuse fiche qui va venir faire une vidéo justement pour donner des conseils de 16 ans. Elle a 16 ans. Et donc, on se sert effectivement d'une part, nous, de notre expertise de journaliste. Et en même temps, bah, faut aussi vivre avec son temps. Donc, on va aussi aller chercher des personnes qui ont de l'influence et qui ont parfois aussi un ton qui va peut-être plus parler à la jeunesse, quoi.
Et ça fonctionne. Alors, on ne sait pas pour les résultats. Vous dites vraiment influence fiche quand vous en parlez entre
oui,
vous.
Oui, bon, moi, influenceuse, c'est peut-être un terme un peu réducteur. Et effectivement, je.
Mais pas forcément péjoratif hein, quand le prononce, mais c'est assez rigolo en fait de penser que voilà des élèves acquièrent une audience comme ça en même temps à 16 ans. On est en première, en seconde, si on est du début de l'année. Alors peut-être que c'est plus efficace. Est-ce que c'est perçu comme plus efficace pour les élèves qui regardent ces conseils qui viennent de pair?
Alors, il y a forcément, effectivement, le fait que le conseil vienne de quelqu'un qui parle à la même hauteur, on va dire, si on peut dire, et qui a aussi une approche, peut-être, dont ils vont se sentir plus proches. Puisque, de toute façon, ils vont, au-delà de l'éducation, ils sont exposés à des influenceurs de leur âge sans arrêt, à des streamers, à des instagrammeurs, etc. Et donc, oui, peut-être que ça passe aussi par là, d'avoir effectivement quelqu'un qui a le même vécu, qui traverse à peu près la même chose à ce moment-là et qui peut apporter des conseils qui sont plus audibles.
Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, Anne-Claudine Oller. Est-ce que c'est une transformation des pratiques éducatives et des pratiques sociales? Et surtout, nous donner des éléments de contexte. On parle souvent, en tout cas, on en a parlé à plusieurs reprises dans cette émission, du stress lié à Parcoursup, par exemple. Alors, c'est pas forcément du stress pour tout le monde, c'est pas ce que je dis. Mais ça existe et ça circule beaucoup de cette façon-là et du stress général lié aux études et à l'idée de réussir.
Oui, tout à fait. Le contexte est important. Il y a à la fois un contexte de société qui fait que les parents, les jeunes peuvent avoir des inquiétudes sur leur insertion sur le marché du travail. Voilà, le chômage des cadres, etc. Et puis qui est aussi renforcé par le contexte scolaire, institutionnel, par les réformes du lycée, notamment Parcoursup, mais la réforme aussi elle-même du lycée, qui implique que les élèves ont le sentiment de devoir aussi choisir encore plus tôt leur orientation, du fait de devoir choisir des spécialités dès la classe de seconde, en sachant que Parcoursup prend en compte le choix, peut prendre en compte le choix des spécialités dans son algorithme pour l'affectation vers des formations d'enseignement supérieur.
Et puis les notes du contrôle continu.
Et les notes du contrôle continu, tout à fait, qui fait que on est sur des évaluations qui sont beaucoup plus de l'ordre presque de la sanction et moins de la formation de l'apprentissage, mais voilà, qui vont sanctionner un niveau immédiat.
Ce qu'on appelle l'évaluation sommative. C'est un terme qu'on a déjà utilisé dans cette émission, mais qu'on utilise, c'est vrai, peu dans la vie courante. Alors, je vais vous donner un exemple, et après, on va en parler avec vous, Imen. Elle s'appelle Maya. Elle a décidé de monétiser son 19,5 de moyenne au bac. Et moi, je la rencontre souvent, parce que je l'ai vue une fois, donc je l'ai vue 100 fois sur Instagram, quand j'y passe. C'est vrai, un peu trop de temps. Son compte s'appelle My Academy.
Avant, je révisais comme tout le monde, sans méthode, sans organisation et surtout sans y croire. Et puis, j'ai tout changé et résultat, j'ai réussi à avoir plus de 19,5 de moyenne pendant tout mon lycée. Alors voilà trois trucs qui m'ont permis de booster mes notes. Déjà, un, méthode scientifique. J'ai arrêté de réviser bêtement. Il y a des méthodes qui sont scientifiquement prouvées de fonctionner mieux que les autres. La première de ces méthodes, c'est l'active recall. Ensuite, on a la répétition espacée. Et pour finir, t'as aussi la méthode Feynman. Si tu veux que je fasse une vidéo sur ces trois méthodes, dis-moi en commentaire. Ensuite, deuxième point, on a l'organisation. Mon emploi du temps, il est super clair. Il est super précis. Donc en fait, je savais exactement ce que je faisais chaque jour et à chaque heure. Ça te permet de ne pas perdre de temps, de ne pas procrastiner et du coup, tu révises beaucoup plus efficacement. Troisième point, j'ai changé mon mindset. Si tu vas en contrôle et que tu sais déjà que tu vas rater, crois-moi, tu vas rater. Maintenant, c'est à toi de booster tes notes.
Alors, on rigole un peu dans le studio à cause du terme « mindset », qui rappelle furieusement le monde de l'entreprise. Maya monétise aussi des fiches, des espèces de livrets. Ben, je les ai pas achetées. En tout cas, elle a des méthodes précises. Est-ce que c'est ce qui fonctionne, Imen ?
Alors, ça fonctionne peut-être. En tout cas, c'est pas du tout ma vision des réseaux sociaux. Puisque moi, là où je vois l'intérêt des réseaux sociaux, c'est que c'est un espace d'apprentissage qui est ouvert à tous, en fait. Et qui enlève justement toutes les barrières que l'on entendait lors du premier audio. On ne dépense pas 5000 francs. Enfin, de toute façon, il n'y a plus de francs, mais on ne dépense pas 5000 euros pour réviser maintenant, grâce en partie aux réseaux sociaux, où l'on peut avoir un certain nombre de contenus gratuits, de personnes qui nous ressemblent, chez qui on va pouvoir trouver une forme d'identification. Et donc, quand je vois qu'il y a des personnes qui monétisent, enfin moi je respecte tout à fait, mais c'est vrai que on est moins dans cet enjeu de partage en fait. Alors que les réseaux sociaux, initialement, c'est le partage d'une communauté, d'une personne à une autre, etc. Et donc je regrette un peu, puisqu'en fait c'est une barrière économique qu'on rajoute en plus à des jeunes qui n'ont pas forcément les moyens, que l'on monétise du coup du contenu éducatif. Mais c'est profondément, voilà, c'est ma conviction, mais je respecte les
personnes. C'est intéressant de l'entendre et ça matérialise bien, en tout cas, ça fait qu'on se figure plutôt cette tension dans l'éducation, hein, entre ce qu'on peut acheter, parce que c'est tentant de payer pour réussir, et après tout, c'est bien le système des cours particuliers, il y a plein de choses qui existent dans ce domaine, et puis cette espèce de démocratisation, plus ou moins permise par les réseaux sociaux, qui est peut-être aussi une forme d'illusion. Qu'en pensez-vous, Anne-Claudine Oller?
Sur l'illusion
bah, ou entre sur, les deux, sur les
entre
deux.
Entre les deux, d'accord. Bah, de toute façon, on peut se dire que d'une manière ou d'une autre, il y a quand même un rapport marchand, même si l'influenceur ou l'influenceuse ne monétise pas directement pour lui-même ou pour elle-même, la plateforme ne vit pas comme ça, sans contenu monétisé. Donc, quelque part, il y a quand même une question monétaire là-dessus. Après, alors j'ai pas travaillé spécifiquement là-dessus puisque j'ai travaillé sur le coaching, mais
bah, en fait il y a personne qui travaille sur les influenceurs
oui, en
études aujourd'hui. Hein.
Mais en tout cas, on peut aussi s'interroger sur voilà, dans une approche sociologique, sur la question des dispositions sociales, de se tourner vers ce type de contenu et dans quelle mesure ça produit ou pas des dispositions sociales. Est-ce qu'elles sont voilà, plus ou moins fortes? Est-ce qu'elles sont transformatrices, etc. Donc, il faudrait véritablement regarder du côté de la réception, du côté des jeunes, comment ils les utilisent, s'ils les utilisent, de quelle manière, etc., etc.
Qu'entendez-vous par disposition sociale au travail scolaire?
Oui, ce sont des pratiques, des manières d'être, d'agir, de penser, qui sont fortement intégrées par tous les individus au cours de ce qu'on appelle en sociologie la socialisation, c'est-à-dire bah, au cours de son éducation, que ça commence dès la prime enfance, mais l'éducation traverse tous les âges de la vie, tous les espaces. On continue d'apprendre, voilà, même dans le grand âge. Et donc, on construit des dispositions dans tous ces espaces-là de socialisation.
En y étant plus ou moins bien préparé, mais tout de même, est-ce que les réseaux et cette offre aussi entre pairs, on l'a dit, entre élèves, peut représenter une démocratisation de l'accès de la réussite? On irait un peu fort, mais des bonnes méthodes de travail, tout simplement, Antoine Vassas.
Bah. Pour nous, qui sommes un média spécialisé sur l'éducation, effectivement, il y a énormément d'offres. La question, c'est est-ce qu'il y a toujours une expertise? C'est-à-dire, est-ce que la manière de faire une fiche qui est donnée par une influenceuse est forcément la bonne? Parce que, bon, il y a toujours moyen de... Enfin, moi, je pense à ça parce que je vois ça toute la journée. C'est-à-dire qu'il y a une... On est obligé de faire aussi une veille TikTok, Instagram, etc. pour...
Donc, vous en regardez énormément.
Donc, on regarde énormément de fiches. Beaucoup trop. Effectivement, bah, c'est pas toujours des contenus qui sont optimales pour la réussite. En tout cas, de notre point de vue de journaliste spécialisé, enfin, de notre expertise, quoi.
Si vous n'êtes pas influenceur, vous êtes au moins expert fiche maintenant, à force d'en regarder.
Oui, malheureusement.
Bah, mais ça sera intéressant quand, je sais pas, vous êtes jeune, mais peut-être aurez-vous des enfants que vous pourrez influencer, si jamais ça marche. Parce que c'est ça aussi, c'est que passer par là, et on a très envie, quand on est parent, d'encourager ses enfants à regarder des influenceurs sans forcément savoir lesquels.
qui pourraient peut-être, eux, leur donner des conseils qu'ils n'entendent pas quand ils viennent des adultes qui les entourent. Imen Bounou, ça, c'est quelque chose qui fonctionne. Et puis, je vous voyais aussi réagir sur le côté social. Donc, j'aimerais bien aussi en parler avec vous.
Non, mais clairement... On dit qu'il faut tout un village pour éduquer un enfant. Et quand on voit le nombre d'heures, 4 heures par jour en moyenne pour un jeune Français, qu'il passe sur les réseaux sociaux, forcément, c'est dans l'équation. Après, c'est à nous de, effectivement, de voir dans quelle manière. Il y a des écueils, certes, les approximations, parfois les fake news aussi. Il n'y a pas de recteur qui regarde si c'est correct ou pas une vidéo d'histoire ou de français. Donc, parfois, il y a certaines erreurs et approximations. Mais effectivement, sur le caractère social, moi, je crois que les réseaux sociaux restent une porte d'entrée que l'on n'a pas dans un anal ou un moyen traditionnel de révision, puisque quand par les aléas de TikTok, on va tomber à tout hasard, je prends l'exemple d'une TikTokeuse qui s'appelle Lynn et qui a fait Léna, sur Lynn qui nous ressemble un peu, à peu près la même façon de parler que nous, et va nous donner, déjà nous faire prendre connaissance de Léna. Moi, Léna, je l'ai découvert hyper tard. Et pourtant, j'ai fait des études, j'ai eu mon bac dans un lycée privé, etc. Mais Léna, j'ai découvert en licence que c'était. Eh bien, ça ouvre une première fenêtre. Quand elle va nous dire les 5 livres à lire pour apprendre un peu ce que c'est la politique, eh bien, ça en ouvre une seconde. Et en fait, c'est tout un chemin que l'on va faire en participant à cette histoire avec une créatrice de contenu ou un créateur de contenu qui va être complété, heureusement, parce qu'on ne rentre pas à Léna avec TikTok, par d'autres façons plus traditionnelles qui, pour moi, me laisse penser qu'effectivement, il y a un enjeu social à la présence de ces influenceurs sur les réseaux sociaux et à le modèle éducatif plus classique, en fait, d'intégrer ces influenceurs dans la façon de penser l'école de demain.
Anne-Claudine Oller, sur cette démocratisation hors disposition, mais déjà d'entendre parler de certains parcours, c'est parfois ce qui manque pour s'orienter. Et c'est aussi ce que mettent beaucoup en avant les plateformes. Alors, pour ne pas citer le nom de cette plateforme d'origine chinoise qui organise un événement sur le fait qu'on apprend en la fréquentant, 40% des vidéos les plus vues seraient des vidéos scientifiques.
Oui, mais je pense quand même que la question de la réception est vraiment importante, et du coup de l'usage. C'est-à-dire que même si une vidéo peut être vue par des jeunes de milieux sociaux différents et qu'elle peut donner à voir peut-être l'existence d'une école ou d'une orientation qu'ils ne connaissaient pas, comment ils vont se l'approprier? Est-ce qu'ils vont se l'approprier? Pareil pour des fiches, par exemple. Dans quelle mesure, en fait, cet outil ne devient pas aussi un outil qui est au même titre parfois que les livres pouvaient avoir ou Internet dans leur usage, en fait. C'est-à-dire que on peut se rendre compte que il y a des élèves qui vont utiliser Internet ou l'intelligence artificielle, en tant qu'outils qui vont leur permettre d'enrichir leur savoir. Ils vont se baser dessus, ils vont les compléter, ils vont améliorer et ça va servir de base. Et puis d'autres vont les utiliser juste en recopiant, en quelque part en plagiant. Et donc c'est là la différence sociale aussi. C'est pas juste le fait d'être de pouvoir avoir accès à ce contenu. C'est la différenciation sociale, c'est aussi de l'usage. On pourrait très bien dire que tous les jeunes ont accès à une bibliothèque municipale, gratuite ou quasiment gratuite, ou à leur bibliothèque universitaire, etc. Pour autant, dans quelle mesure ils la fréquentent et de quelle manière ils utilisent ces ressources-là?
Mais est-ce qu'on casse pas un quatrième mur, je sais pas si on peut parler comme ça, pour le monde des réseaux, mais justement cette distance, donc on la casse pas, on la franchit avec les réseaux? C'est la question qu'on va continuer de se poser avec Louise, qui est étudiante en L3 de lettres modernes, c'est la troisième année de licence pour les vieilles personnes qui nous écoutent comme moi. Elle est créatrice de contenu, elle a commencé au lycée, elle continue le StudyGram aujourd'hui, et je lui ai demandé ce qui intéressait le plus son public, les contenus ou les méthodes.
Les méthodes sont plus appréciées du public. Je trouve qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à ça. Je sais que je reçois beaucoup de messages en privé, et en fait, c'est les messages que je reçois qui vont m'aider à proposer mon contenu également. Je remarque beaucoup de gens qui se questionnent comment apprendre un cours quand on passe du lycée à la fac, on a des cours vraiment conséquents, comment réviser ça. Donc j'essaye voilà, d'y répondre au mieux. Et c'est vraiment les méthodes de travail qui vont être les plus recherchées par les étudiants, puisque les fiches de révision, on peut en trouver relativement facilement sur Internet, par exemple en lettres. Trouver une fiche sur un auteur ou sur une œuvre, c'est relativement facile à trouver, mais trouver une méthode de travail à proprement parler, en lien avec soit ses études, soit avec sa manière de réviser, son type de mémoire, c'est plus compliqué. Donc j'essaye vraiment de proposer ça en fonction de moi, ce que j'ai pu remarquer au fur et à mesure de mes études, ce qui m'a posé problème, ce que j'ai appris de mes erreurs, etc. Et pour leur proposer quelque chose en lien avec leur âge et avec leurs études, en fait. Je pense que je me concentre beaucoup sur la manière de faire des fiches. C'est quelque chose qui pose problème. Donc, ça m'arrive de réaliser des petites vidéos où je me montre en train de ficher un cours ou alors je partage en story comment est telle ou telle fiche parce que c'est assez compliqué de résumer ces cours. Donc, j'ai fait plusieurs fois les thématiques résumer un cours plus facilement.
Aujourd'hui, il y a l'IA qui rentre en jeu.
Oui, j'ai créé dernièrement une publication liée à l'IA pour expliquer aux étudiants que ça peut être utile dans les études, mais qu'il y a forcément des problématiques liées à ça, puisque on n'apprend pas forcément grâce à l'IA. Il faut faire attention avec ça. Faire une dissertation avec l'IA, c'est pas progresser soi-même. Donc voilà, j'essaye de proposer quand même du contenu qui sera toujours en lien avec l'actualité, donc comment travailler avec l'IA, mais en évoquant également les dangers que ça peut avoir, et vraiment proposer quelque chose, du contenu qui va être en lien avec comment travailler, comment réviser. Dernièrement, j'avais présenté une application qui utilise l'IA justement pour aider les étudiants à faire des fiches de révision et à réviser sous forme de QCM. Donc voilà, c'est aussi montrer que les nouveaux outils d'aujourd'hui peuvent nous aider pour nos révisions.
Est-ce que vous avez l'impression, Louise, de répondre à une demande sur savoir comment appréhender l'université? On sait qu'on peut être parfois un petit peu impressionné, voire perdu, devant la différence qu'il y a entre le lycée et l'université. Quand on arrive à la fac, c'est pas facile de s'adapter. Quelque part, vous vous aidez les étudiants à passer cette étape.
Oui, c'est exactement ça. En fait, je voulais partager, moi, ce que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en licence, que ce soit en lettres ou alors à l'université en général, et vraiment essayer de rassurer au mieux les étudiants et futurs étudiants, leur proposer quelque chose qui va les aider tout au long de l'année, mais en même temps pour la rentrée, ce qui peut faire vraiment peur, puisque l'université, c'est quand même une étape importante de la vie. On choisit un secteur en particulier, un domaine en particulier, et c'est quelque chose complètement différent par rapport au lycée. On n'est plus accompagné comme on l'était par les professeurs. Il y a quelque chose de différent, que ce soit le cadre avec les amphithéâtres, la découverte des travaux dirigés, des cours magistraux. Donc voilà, vraiment présenter et expliquer tout ce qui est en lien avec l'université et voilà, essayer oui, de passer le cap avec eux, tout comme j'essayerai de les faire passer le cap avec moi vers le master, voilà, pour proposer vraiment quelque chose qui sera toujours au goût du jour en fonction de moi, comment j'évolue et comment eux vont évoluer par la suite.
Je trouve que vous défendez pas mal l'université, c'est-à-dire que ça donne plutôt envie, on se dit que c'est intéressant, c'est riche et qu'on peut s'y épanouir intellectuellement et puis aussi humainement.
Exactement, oui. J'ai aussi continué à l'université et quand j'ai commencé ma licence lettres pour montrer une vision différente de la licence lettres parce que je trouvais que c'était une licence qui était un petit peu mise de côté, presque vue un peu comme quelque chose d'inférieur par rapport à certaines licences. Et donc voilà, je voulais présenter une vision différente, montrer vraiment que c'est une licence qui peut plaire, qui est très intéressante, qui est riche de thématiques, de sujets. J'ai eu la chance d'avoir des cours de cinéma, de sémiologie, de linguistique. Et donc proposer vraiment une présentation valorisante de cette licence lettres dont on parle très peu et trop peu, je trouve.
Écouter les étudiants et les étudiantes comme Louise pour valoriser les différents parcours, ça c'est aussi ce que peuvent permettre des plateformes. Alors l'étudiant, je ne sais pas si vous appelez ça une plateforme maintenant, Antoine Bassas.
Un média,
tout simplement, présenter des parcours plus diversifiés et aussi des visions variées de ce que peut être la réussite étudiante.
Ouais, et même l'échec aussi, hein. C'est apporter des expériences.
Parler de réorientation, par exemple.
La réorientation, évidemment, c'est un sujet important. Mais même, je pense à des étudiants de prépa, par exemple, qui ont parfois arrêté la prépa parce que c'est trop difficile. Leur témoignage, ça va aussi apporter aux étudiants qui ont, ou en tout cas aux élèves qui envisagent de faire une prépa, Ça, c'est, je pense, hyper important. C'est vraiment le témoignage. Parce que je pense que les élèves, par exemple, qui sont au lycée et qui vont passer en études, ils sont forcément curieux de ce que ça va être. Et c'est hyper important, par exemple, d'avoir des témoignages de première année. Ça, c'est un truc à l'étudiant qu'on essaye de faire le plus possible. C'est qu'ils aient vraiment un aperçu, par exemple, de ce à quoi ressemble une journée, je sais pas, en L1 droit ou en L1 psycho, qui sont parmi les plus demandés, en tout cas sur Parcoursup. Et oui, en tout cas, le témoignage et l'expérience d'autres étudiants, ça amène forcément, de même que les conseils de révision de ces étudiants-là aussi, sont importants, même si on a des journalistes aussi qui peuvent apporter des conseils. Parfois, ça passe mieux quand ça passe d'étudiant à étudiant. Quoi.
Parce qu'il y a tout ce côté vie quotidienne. Une journée avec moi à l'université ou dans mon école, c'est presque une figure comme ça qu'on retrouve très souvent chez les influenceurs, influenceuses. Enfin, moi, je l'ai plus vu de filles, en fait, Imen Bounou, pour raconter un petit peu sa vie. Ça va avec le fait de réviser, c'est quelque chose.
Bah, bien sûr.
C'est important.
Oui, clairement. Moi, je pense que ce qui a fait aussi mon succès, disons, c'est le fait que j'assume que je vienne du Mans, donc d'une petite ville, que j'ai dû venir à Paris, et donc que j'ai rencontré tout un tas de difficultés, que je me suis retrouvée dans un crous, que j'étais échelon 7, que j'avais pas forcément une manière de réviser, voilà, jamais menti, jamais fait de fiche, j'ai peut-être eu un mindset à un moment donné, mais voilà, j'ai jamais été dans la grandiloquence. Et en fait, je pense que c'est comme ça que l'on se reconnaît un petit peu dans un visage, une histoire, et donc que l'on va rejoindre un peu ce voyage qui est de suivre quelqu'un sur les réseaux sociaux et de se sentir un petit peu appartenir à la fois à une communauté, mais aussi de se reconnaître dans les... Par exemple tout bête, moi, j'avais pas d'ordi, en fait, quand j'étais à la fac. Et puis, mon père m'a donné un ordi, mais c'était un énorme truc qui ressemblait à un paquebot, quoi. Et donc, à un moment donné, je l'ai lâché. Puis ensuite, j'ai essayé l'écriture. Puis, en fait, j'avais une tablette. Bon, bref, j'ai essayé plein de trucs. Et rien que montrer ça, eh bien, en fait, ça dédramatisait le fait que j'ai fait des études que j'ai réussi, qui plus à l'université, sans avoir un MacBook. Et en fait, ça, c'est une énième barrière économique qui fait que les étudiants vont se sentir mal à l'aise. Il y a tout un tas d'injonctions sur les réseaux sociaux qui reprennent parfois les codes de l'entrepreneuriat. On parlait de mindset, mais on va aussi montrer le dernier iPad, montrer les super belles fiches faites sur l'iPad. Et ça, c'est une barrière à l'entrée que l'on va imposer encore une fois sur les réseaux sociaux.
Et oui, mais parce que les réseaux sociaux sont faits aussi de plein de stéréotypes.
Tout à fait. Les strass et paillettes, ça n'échappe pas au studigramme.
Au studigramme et au TikTok étudiant. Alors, vous avez parlé de l'échelon 7, c'est un échelon de bourse et vous avez donné beaucoup de recettes pour bien manger. C'est important de bien s'alimenter. On sait qu'il y a beaucoup d'étudiants dans la précarité. Hein, c'est pas un petit sujet, évidemment. Donc, ça vous a fait avoir une bonne audience. Et alors, quand on a discuté pour préparer l'émission, vous m'avez parlé d'un truc qui m'a fait un petit peu halluciner. C'est le fait de réviser à plusieurs en ligne. Alors, est-ce que vous pouvez essayer d'expliquer ça aux auditeurs pour qu'on se figure à quoi ça ressemble de réviser en 2025 ou même un peu avant?
Alors, en fait, il y a un événement que l'on semble avoir oublié mais qui a traumatisé une génération, c'est le Covid. Et donc, le Covid, ça a induit un certain nombre de nouvelles pratiques et notamment les lives, en fait, et donc TikTok qui a explosé pendant le Covid. Et les lives permettaient de se connecter avec des milliers, il y a eu des lives à des millions de personnes à ce moment-là. Et forcément, les créateurs éducation ont aussi utilisé ce moyen à leur escient. Et moi, ce que je faisais, c'est que j'étais dans mon crew, voilà, isolée depuis 2 mois toute seule, et j'étais en pleine période de partiel pour mon master 2. Donc ce que je faisais, c'était que plutôt qu'aller à la bibliothèque qui était fermée, plutôt que de réviser avec mes copines que j'avais pas le droit de voir, j'allumais mon téléphone, je donnais des rendez-vous au préalable, et de 20h à 21h, j'avais 300 personnes qui étaient elles aussi chez elles en train de réviser. On faisait des pauses de 20-30 minutes, enfin non, des pauses de 20-30 minutes, c'est un peu long, mais on faisait des pauses toutes les 20-30 minutes, on discutait et puis on reprenait. Et donc il y a eu cet enjeu de comment on crée du lien dans un moment qui est catastrophique et où on perd tout ce lien qui est hyper important quand on fait des études. On sait qu'on est particulièrement en proie à l'isolement. Et les lives, ça a été la façon. Et puis ça perdure toujours. Il y en a plein encore qui font des lives pour réviser ensemble.
C'est ce qu'espèrent tous les parents, en fait. Et ça me coupe presque le sifflet, mais ça touche une très grande question. C'est celle de la solitude des étudiants, mais aussi l'individualisation des parcours. Parce que finalement, devant les plateformes, quand on fait ses choix, on est seul, on est d'une certaine manière un peu isolés. Et d'ailleurs, ceux qui le peuvent essayent de pas aller à l'université parfois parce qu'ils ont plus de moyens ou de meilleurs résultats scolaires, ou voilà, mille choses, pour ne pas ressentir cette solitude et cet isolement. C'est un vrai sujet des études aujourd'hui. C'est aussi pour ça que parfois les gens prennent des coachs. Vous avez écrit là-dessus, Anne-Claudine Oller.
Alors, il y a la question de la solitude, il y a aussi la question, comme vous l'avez dit, de l'université, des stratégies d'orientation. Après, il faut aussi, je pense, plus globalement, s'interroger sur quel service public d'accompagnement à l'orientation ou à la scolarité on souhaite, d'un point de vue de la société. Voilà, je suis aussi prof à l'université et c'est aussi un peu facile de pouvoir dire que l'enseignement à l'université est moins bien parce que il y a 300 étudiants dans un amphi et que du coup ils sont tout seuls. Mais dans ce cas-là, changeons le modèle de l'université et permettons aux étudiants de l'université de bénéficier d'enseignements plus proximaux comme des étudiants de classe prépa ou de BTS.
C'est intéressant que vous rebondissiez comme ça, parce que c'est pas tout à fait ce que j'ai dit. Hein. J'ai parlé de solitude des parcours et de sentiment aussi d'être un peu seul face à son destin et une réussite qu'on espère, mais dont on n'est pas assuré finalement.
Oui, aussi. Après, la question, c'est est-ce que les élèves sont véritablement seuls ? Peut-être qu'ils se sentent seuls, mais qu'ils ne le sont pas tant que ça, parce qu'on le voit aussi dans les enquêtes, justement sur l'accompagnement à l'orientation, que les enseignants font quand même beaucoup, en tout cas, beaucoup d'enseignants, de profs principaux font beaucoup de choses, essayent de faire un accompagnement assez proche, même si, effectivement, selon les établissements, il y a de grandes variations, selon les enseignants, il y a de grandes variations. Mais là, ça rejoint aussi la question, quel service public d'accompagnement à l'orientation on veut ? Statutairement, pouvoir donner des heures, sanctuariser des heures, etc. Mais oui, l'accompagnement au sein de l'institution scolaire, qu'il soit dans la diffusion de savoir que dans l'accompagnement à l'orientation, forcément, il est collectif.
France Culture. Être et savoir. Louise Touré.
N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Et sinon vie parfois je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. Mais là j'ai trop joué. À ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols.
Il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai.
Tout, Angèle, tout oublier. J'ai choisi cette chanson par association d'idées puisque ce soir, dans Être et Savoir, nous parlons des révisions. Comment est-ce qu'on révise en 2025 avec les réseaux sociaux et avec l'intelligence artificielle et ses promesses? Alors, des promesses d'aide à faire des fiches, à réorganiser son cours. On va écouter un exemple de vidéo sur le sujet qu'on a pris sur le site de l'étudiant.
Tu as Notebook LM. Hyper pratique si tu as de gros blocs de cours. Tu lui envoies tout simplement le PDF et elle va te le résumer, répondre à des questions récurrentes et te le rendre plus vivant. L'IA peut même t'en faire un podcast avec plusieurs intervenants.
C'est les émotions en fait.
Pour les maths, tu peux utiliser Photomath. Très simple, hein, tu prends un problème en photo et tu obtiens une solution détaillée. C'est pas une raison pour tricher, hein, parce que je vous vois. Mais si tu veux un corrigé ou vérifier que tu as tout bien fait, ça peut vraiment être très utile. Le plus pratique que j'ai trouvé pour les études supérieures, c'est Notion AI. C'est une IA qui est directement intégrée au logiciel de prise de notes Notion, logiciel incroyable au passage, et qui travaille à partir de tes cours.
Si tu es comme moi et que tu retiens plus des paroles de chansons qu'une leçon sur la trigonométrie, j'ai un truc infaillible pour mêler les deux.
A et B se mélangent, ouais, ils se confondent, le vecteur devient pulsaireux, ça tourne en rond, pas de sens, pas de direction.
Ou même ces citations de philo à apprendre sur de la pop.
L'expérience est qu'une observation présente dans un but de contrôle. Claude Bernard, l'expérience est là le fondement de toutes nos connaissances.
Claude Bernard, je ne sais pas si j'arriverai à retenir en écoutant ce style de musique. Peut-être qu'on peut changer, on peut avoir tous les styles de musique, il paraît, donc reggae, trap, rap, variété. On peut peut-être ressusciter Jacques Brel, je me suis souvenu de Rosa. Donc aujourd'hui, c'est la grande transformation. Est-ce que ces vidéos marchent particulièrement bien, Antoine Vazas?
Alors, ça dépend. Aujourd'hui, il y a énormément de vidéos sur l'IA et comment l'utiliser. Moi-même, mon algorithme de cette application chinoise dont on ne cite pas le nom.
Vous en proposez beaucoup.
On en propose énormément. Donc, nous, effectivement, c'est un outil. Enfin, on peut pas passer à côté de cet outil. C'est-à-dire qu'on doit pratiquement tout passer par le prisme de l'IA aujourd'hui. Avant, on leur disait fais un calendrier de révision maintenant. Fait un calendrier de révision. Et aujourd'hui, on va lui expliquer quel prompt il faut qu'il rentre dans ChatGPT pour avoir un calendrier de révision, puisqu'on sait que globalement, aujourd'hui, ils sont 9 étudiants ou 9 élèves sur 10 utilisent l'IA de toute façon. C'est une révolution un peu équivalente à celle que moi j'ai connue, par exemple, avec l'arrivée d'Internet.
Et moi avec le Minitel. Mais plus sérieusement, c'est-à-dire que quand on pose cette question à l'IA, et que l'IA nous donne un calendrier. C'est pas comme si on avait réfléchi au calendrier qui était le meilleur pour soi. C'est ce que disait un petit peu l'étudiante Louise en lettres qu'on a entendues. C'est-à-dire, c'est quand on fait une fiche, c'est pas pareil que si on nous donne une fiche toute faite. Donc, comment on sait si ça fonctionne ou pas pour les réviser plus efficacement? Quel retour? Enfin, je crois même pas que vous en avez encore.
Ce qu'on donne globalement, c'est ne demande pas à l'IA ce que toi, tu ne peux pas faire. Parce que sinon, au fur et à mesure, on perd son expertise, en fait.
Mais si on ne le fait plus?
Malheureusement, le problème, c'est que si nous, par exemple, à l'étudiant, on dit « fais-le toi-même », on passe à côté du fait que, de toute façon, ils utilisent l'IA. Donc, autant tenir compte de ce facteur-là, qui est de toute façon là, et qui va encore grossir, et je pense que ça va encore se développer... Et en gros, tous les 3 jours, on a une nouvelle intelligence artificielle qui va permettre, par exemple, d'humaniser un texte qui a été rédigé par ChatGPT pour pas qu'il soit détecté par un professeur ou d'autres applications, ou celles que vous avez passées, par exemple, pour créer une chanson. Et encore là, celles qu'on a écoutées, c'est peut-être pas les meilleurs exemples, parce que moi, j'en ai testé plein. Et je peux vous dire que c'est bluffant.
C'est le lien que vous m'avez envoyé, Antoine.
C'est le lien que vous avez envoyé, oui. Non, mais j'en ai fait 15, 20. J'ai même fait une petite expérience parce qu'en plus d'être journaliste éducation, il se trouve que ma compagne est enseignante et donc elle l'a fait dans sa classe.
Excellent duo.
Tout à fait. Elle l'a fait dans sa classe et ça a été à moitié bien réceptionné parce qu'il y a quand même des élèves qui ont trouvé ça un petit peu gênant ou cringe.
Comme on dit parfois, peut-être qu'on dit plus d'ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est très intéressant. Alors, est-ce que vous savez, Anne-Claudine Hollard, si des chercheurs, mais je crois que vous savez un petit peu, travaillent sur la manière dont les étudiants, les élèves s'emparent de l'IA aujourd'hui et apprennent ou non grâce à ces outils? Parce que c'est forcément la question qu'on est tous en train de se poser.
Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. J'ai un collègue, Cédric Naudet, qui travaille notamment là-dessus et qui regarde, alors pas sur spécialement les fiches, mais plutôt sur le travail que les élèves doivent produire à la maison. Et effectivement, il disait que globalement, tous les élèves utilisaient l'intelligence artificielle pour réaliser leur travail scolaire à la maison, mais qu'il y a des usages socialement différenciés du recours à cet outil entre l'élève qui justement va se faire détecter par l'enseignant parce qu'il aura recopié le le texte produit par l'intelligence artificielle et les bons élèves, entre guillemets, qui, en fait, auront pris ce texte, auront continué de réfléchir dessus, l'auront amélioré, l'auront amendé, complété, corrigé, l'auront reformulé aussi avec leurs propres mots. Et voilà. Et donc, c'est vraiment la question de cet usage-là. Mais qui, a priori, selon lui et de ce qu'il observe, ce qu'il a pu observer, ne rebat pas fondamentalement, en fait, les cartes de l'ordre scolaire.
L'ordre scolaire qui est très social, hein, oui. Pour préciser votre propos, s'il oui. le fallait. Antoine Vassas, j'ai bien vu que vous vouliez réagir, et j'ajoute une question, parce que je fais toujours comme ça. Réviser, c'est quand même se rentrer quelque chose dans l'esprit pour le retenir. Une méthode ou des connaissances. Aucune intelligence artificielle ne peut le faire à notre place. C'est des questions de méthode. Qu'on touche. Oui. Ça ne nous priverait pas quand même de cet accès plus direct au savoir par le fait de fabriquer sa propre fiche, etc.
Les outils ont changé, mais globalement, réviser, ça va toujours être essayer de faire rentrer des informations dans son cerveau et de les garder, quoi. Donc après, la manière dont on le fait, c'est-à-dire si on utilise l'IA justement pour synthétiser un cours ou effectivement, comme j'ai dit, créer un calendrier de révision, créer un quiz, par exemple, créer des exercices, lui poser des questions pour qu'il réponde, etc. Ça... À mon avis, ça va pas rendre les élèves plus idiots d'utiliser l'IA ou non, quoi. C'est juste que ça va peut-être leur simplifier la vie d'une certaine manière. Là où je voulais réagir, c'est effectivement, on parlait des devoirs à la maison. Et là, par contre, c'est, à mon avis, c'est fini dans pas longtemps. Hein. En tout cas, moi, je connais énormément de professeurs qui déjà ont renoncé à demander des devoirs à la maison parce que plus l'IA avance, moins on va la détecter de toute façon. Plus ça va être compliqué pour les professeurs et donc ça va plutôt pousser les professeurs à changer leur méthode d'apprentissage et à faire l'impasse par exemple sur les devoirs à la maison puisque de toute façon en 2 minutes aujourd'hui en 2 minutes je suis en 2 secondes plutôt l'IA peut le faire à sa place quoi.
Imen Bounou, j'ai 2 questions et vous allez pouvoir formuler votre remarque. Est-ce que vous vous sentez vieille ? C'est toujours agréable de demander ça à quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que soi par rapport à toutes ces évolutions qui sont assez rapides. Et 2, est-ce que finalement, quand on est sur de l'influence pour mieux étudier, on ne doit pas aussi trouver des stratégies pour contourner les solutions technologiques et revenir à quelque chose de plus pur dans le rapport, enfin plus pur, je sais pas, mais peut-être plus efficace finalement et plus simple et dénué de ces technologies comme quand vous révisiez en commun, juste avec des caméras mais de manière assez traditionnelle.
Alors, est-ce que je me sens vieille ? Non, ça va. non, parce que c'est vrai que j'essaye de rester au fait quand même de ces nouvelles tendances. Et est-ce que je me sens en danger par rapport à, enfin, en face de l'IA, non plus, en fait, parce que je crois que le caractère humain, le caractère de représentation, de témoignage, en fait, ne sera jamais balayé par les nouvelles technologies. Je pense que moi, alors, il y a plein de procès à faire à l'IA et je ne vais pas en faire l'avocate ici, mais je crois qu'en fait, sur le sujet, par exemple, des devoirs à la maison, en fait, l'IA met juste en exergue que il y a des inégalités entre les jeunes. Et en fait, il y a des inégalités entre les jeunes qui vont savoir utiliser l'IA ou pas, mais le sujet du devoir à la maison, c'était d'abord, quand je rentre chez moi, que ce soit mes parents qui peuvent m'aider ou ChatGPT, en fait, il y avait des différences trop importantes entre les élèves, donc tant mieux si c'est si le sujet des devoirs à la maison peut enfin revenir sur la table pour que on en finisse. Mais moi, je crois que c'est hyper important d'avoir un rapport, alors critique à l'IA, parce que c'est un désastre écologique en premier lieu, parce que l'IA, c'est sexiste, parce que l'IA, c'est aussi parfois un peu raciste, mais... il y a une phrase, et là, par contre, c'est une phrase mindset à mort et d'entrepreneur, mais moi, je ne serai pas remplacée par l'IA, mais certainement par les personnes qui sauront la maîtriser. Et donc, je crois que c'est important quand même d'apprendre, comme on a appris l'usage d'Internet. Alors, moi, j'ai eu peut-être les premiers cours, il y a ça quelques années, d'Internet à l'école primaire. Et en fait, c'était hyper important. Je sais que maintenant, on apprend le code, et tant mieux si on apprend aussi ChatGPT à l'école.
Alors, je vais revenir où... aller vers une intelligence plus humaine, celle qu'on vous propose tous les jours à la radio avec des tas de contenus, ceux de France Culture, mais ceux de tout Radio France qui sont aujourd'hui proposés sur nos plateformes, c'est-à-dire notre site et puis notre application, je dis notre, hein, Radio France, c'est une grande maison, on le sait. En fait, c'est Lisa Vaturi, éditrice numérique à France Inter et sur cette plateforme Radio France, qui va nous expliquer ce qu'on trouve et où on le trouve.
Sur le site de Radio France et sur l'application Radio France, il y a un espace qui s'appelle « Préparer le bac 2025 ». Et à l'intérieur de cet espace, il y a un espace dédié à chacune des spécialités, donc à l'histoire, à la géopolitique, à GGSP. Il y a un espace pour l'histoire, la littérature, la philosophie, pour les sciences de la vie et de la terre, pour les sciences économiques et sociales, pour les arts aussi, la musique. Et à chaque fois, à l'intérieur de ça, pour chaque thème et sous-thème du programme, il y a un podcast dédié qui porte le même nom que dans le programme de Terminal. En histoire et géopolitique, par exemple, on a un podcast qui s'appelle Histoire et mémoire. On a un podcast sur les mémoires de la guerre d'Algérie, sur aussi l'histoire de la notion d'environnement, sur le patrimoine, la connaissance comme enjeu géopolitique aussi. Voilà, en sciences économiques et sociales, ça peut être la croissance économique, ça peut être la mobilité sociale, les mutations du travail, la justice sociale. Enfin, tous les thèmes du programme ont leur podcast. Et ces podcasts sont constitués d'émissions actuelles de France Culture, France Inter, France Info, France Musique, ICI, donc ex-France Bleu, mais aussi d'émissions d'archives. Donc voilà, on retrouve toutes les grandes émissions de Radio France. Donc en histoire, ça peut être le cours de l'histoire, mais ça peut être aussi 2000 ans d'histoire, la marche de l'histoire face à l'histoire, les chemins de la philosophie avec philosophie, en sciences, la science EQFD, la méthode scientifique, enfin voilà.
C'est comme si on retrouvait des contenus qu'on connaissait, mais classés différemment. Il y a aussi le bac français qui est proposé à la révision. Donc, avec les cahiers de Douai.
Voilà, il y a les cahiers de Douai d'Arthur Rimbaud et il y a un podcast qui s'appelle Les œuvres au programme du bac français et dans lequel on retrouve des émissions sur On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, sur La rage de l'expression de Francis Ponge, sur Mes forêts, les poèmes d'Hélène Dorion, voilà, la déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de l'arme de gauche. Enfin, tous les textes du programme du bac français ont une émission dans ce podcast.
La rage de l'expression, ça vaut le coup parce que c'est pas tout à fait facile comme texte à préparer pour le bac français. Donc, écouter une émission, ça peut permettre de se familiariser avec un sujet, mais aussi d'approfondir. C'est ce qui se passe avec la proposition Sciences Po qui est très axée sur les thèmes demandés au concours et puis la culture générale.
Là, on a parlé du programme du bac. On a un espace plus large qui s'appelle Apprendre et réviser, dans lequel on retrouve tous l'accompagnement aux révisions des examens, donc du bac, aussi du concours, on dit des Sciences Po, des instituts d'études politiques. C'est l'épreuve qui s'appelle Questions contemporaines. Et dans cet espace, on a donc de la préparation aux examens et aussi tout un espace de culture générale dans lequel on trouve des podcasts sur les classiques littéraires, beaucoup de thèmes historiques, en économie, en philo, etc. Donc, voilà, c'est un espace plus large. Et sur Sciences Po en particulier,
allons-y.
Alors, sur le concours des Sciences Po, il y a deux thèmes cette année au programme qui sont le corps et les solidarités. Pour chacun de ces deux thèmes, on les a déclinés, en fait, par exemple, sur le corps. On a créé 10 podcasts sur le thème du corps. Donc, ça va du corps en politique, au corps en philosophie, à la sociologie du corps, à l'histoire du corps, au culte du corps, à l'idée de disposer de son corps, la marchandisation du corps. Et à chaque fois, c'est un podcast dans lequel il y a une dizaine d'émissions qui traitent exactement de ce sujet-là. Donc, ce ne sont pas des cours, évidemment, mais ce sont d'autres regards, d'autres approches, d'autres références qui couvrent ces sujets-là.
Et ça donne complètement envie d'écouter. Lisa Vaturi, ce que j'aimerais savoir, c'est si on s'adresse, nous, Radio France, directement aux élèves. Alors, on espère que beaucoup d'élèves vont nous écouter et écouter de plus en plus la radio via l'entrée révision, préparation des examens, culture générale, ou à des professeurs, des adultes, même des parents comme moi.
Ben, on aimerait s'adresser évidemment à tout le monde. Alors, on avait dans l'idée, c'est aussi notre mission aussi de service public, de répondre à toutes ces demandes-là, mais on avait dans l'idée que ça pouvait servir de ressource complémentaire pour les enseignants quand ils abordent un sujet, un thème dans une spécialité, qu'ils puissent proposer à leurs élèves d'aller écouter un podcast et puis de s'en servir comme matière pour leurs cours. Pour les parents, on pensait que ça pouvait être aussi intéressant pour accompagner leurs enfants dans leur révision, d'écouter ensemble une émission ou de les aider, ou de leur conseiller une émission à écouter. Et puis, ben, les élèves, évidemment, on espère avec ça leur donner envie d'écouter la radio puis découvrir qu'il y a des choses à la fois intéressantes et utiles sur Radio France.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Une plateforme donc assez géniale, hein. Ça donne très très envie d'écouter des émissions, soit très récentes, soit des archives. En fait, même être et savoir est présente dans ce cette proposition d'émission pour accompagner. Hein. C'est vraiment le mot qui a été choisi par Radio France, accompagner les révisions avec des entrées qui correspondent au programme. Est-ce que ça marche bien les podcasts? On a parlé voilà des réseaux, des influenceurs. Il y a les podcasts.
Ah bah le podcast, je pense que ça, effectivement, ça marche bien. Pour réviser, ça dépend si on a une mémoire auditive ou non. Je pense que chaque individu est un peu fait différemment. Et il y en a qui ont effectivement une mémoire auditive. On parlait tout à l'heure des chansons. C'est aussi une forme comme ça de mémoire auditive. Ou qui ont besoin peut-être plus d'interaction. Donc ont besoin peut-être de faire des quiz, des exercices, etc. Et il y en a d'autres qui... ont absolument besoin d'apprendre par cœur leur cours.
Est-ce que, parce que vous faites des podcasts, vous en produisez à l'étudiant, alors, est-ce que...
En ce moment, mais effectivement, on envisage d'en refaire, oui.
Et vous allez en refaire, parce que c'est un média plus proximal, je fais un peu la pub pour notre boutique, mais le fait de parler comme ça, d'avoir cette adresse aussi audio, on sait que voilà, ça crée aussi des communautés et des publics un peu différents.
Oui, bien sûr. Mais de la même manière que sur des vidéos courtes, on va s'adresser directement avec en plus effectivement l'image. Mmh. Mais oui, ça. Et puis c'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Donc forcément, des fois on a, et sur l'éducation c'est primordial, on peut enregistrer des informations sans totalement s'en rendre compte, puisque notre cerveau il entend tout effectivement, et donc. Et donc ça permet d'apprendre sans véritablement s'en rendre compte. Quoi.
Dans les transports, en faisant
du sport,
c'est souvent une utilisation, et pas en dormant, mais c'est vrai que parfois c'est aussi une utilisation des podcasts. Imane Bounou, sur cette offre Radio France, bon, il y a peut-être d'autres antennes, mais vous qui avez aussi été des nôtres à France Culture.
Je vais faire un
site
sur France Culture, là.
Bah, allez-y.
Non, mais clairement, enfin, moi, alors... J'ai découvert France Culture, bien sûr, quand j'étais plus petite, mais c'est vrai que en venant dans la maison, en fait, c'est vraiment comme ça que j'ai découvert les programmes. Alors, puis à l'époque, c'était Les Chemins de la Philo, Être et Savoir, vous étiez déjà là. Les Chemins de la Philo, La Fabrique de l'Histoire, etc. Et en fait, c'est une mine d'or énorme. Moi, dès du haut de mes 26 ans maintenant, dès que j'ai une question sur un sujet, je vais sur Radio France, je tape guerre d'Algérie, colonisation, peu importe. Bref, je tape les sujets qui m'intéressent et je sais que j'ai pléthore de podcasts qui vont venir répondre à mes questions. Ça suscite aussi, enfin en tout cas ça encourage la curiosité puisque la plateforme est si bien faite que on peut tomber sur des podcasts qu'on n'écouterait pas. Le dernier en date, c'était sur la magie. Donc alors, on s'éloigne de la révision, mais du coup j'ai écouté un podcast d'une heure sur la magie comme j'ai écouté toute la série sur Léon Blum et du coup maintenant je suis pas une spécialiste, mais en tout cas je me souviens de beaucoup de détails qui m'ont échappé lorsque, enfin du moins que j'ai oublié de mes études au lycée et à la fac. Donc oui, moi je suis fan des podcasts.
Merci, on n'avait pas préparé ce moment, évidemment. Léon Blum, c'est Philippe Collin et c'est sur France Inter. Effectivement, c'est formidable, comme souvent, hein. D'ailleurs, les émissions d'histoire, évidemment, on va parler de réception différenciée. Je sais bien, Anne-Claudine Noller, mais je voudrais qu'on évoque la question du temps. Parce qu'aujourd'hui, les lycéens manquent de temps, surtout avec le contrôle continu. On l'a dit, le rythme est très soutenu. On en a parlé au mois de décembre avec des élèves dans ce studio. Finalement, il reste plus beaucoup de temps pour réviser. C'est ce qui explique cette recherche effrénée d'efficacité qu'on voit circuler sur les réseaux.
Oui, il y a plus beaucoup de temps peut-être pour réviser. La pression, comme on le disait aussi, du contexte fait que, enfin, de société, hein, fait que de plus en plus les jeunes, leurs parents considèrent qu'il ne faut pas perdre de temps dans des réorientations, par exemple, qu'il faut faire les bons choix tout de suite pour pouvoir être efficace dans l'insertion sur le marché du travail et ne pas connaître un déclassement social. Mais de toute façon, cette question du temps et de la maîtrise en fait du temps dans la réussite scolaire est primordiale par exemple, Muriel Darmon, dans son ouvrage sur les élèves de classe préparatoire, montre bien comment, en fait, les classes préparatoires forment, justement par une socialisation très forte, les élèves à cette maîtrise et à cette gestion du temps. Et quelque part, l'influenceuse qu'on a entendue au début, où elle disait, voilà, j'ai un calendrier très précis, je savais chaque jour, à chaque heure, ce que je devais faire, etc., etc. Eh bien, c'est aussi un apprentissage de la gestion du temps et quelque part, d'une forme d'efficacité, quoi.
Mais est-ce que efficacité et culture générale, ça va vraiment ensemble? Et pourtant, c'est quand même une demande, en tout cas pour certains concours. On sait que c'est quand même valorisé dans les oraux. C'est aussi le sentiment qu'on donne d'en posséder de la culture générale. Et ça, ça demande beaucoup de temps. Alors, il y a tout ce temps qu'on aura pu passer enfant avec ses parents, mais ce temps qu'on peut avoir ou non pour écouter des podcasts. Et même l'université, c'est un endroit où le temps est un peu plus dilaté. On est censé travailler beaucoup par soi-même. Finalement, ce temps, on a plus, j'ai l'impression, le luxe de se l'offrir collectivement.
Je sais pas, sur la question du temps et la maîtrise du rapport à la question de la culture générale. Je travaille avec mes étudiants, par exemple, un texte notamment des Pinson Charlot qui montre bien...
Sociologue également, beaucoup travaillé sur les riches en particulier,
oui, voilà.
Et puis les inégalités.
Mais qui montre en fait comment il y a une imbrication et bien sûr, dans la lignée des travaux de Bourdieu, hein, en fait. Mais comment il y a une imbrication des capitaux à la fois économiques, sociaux, culturels, et dans cet extrait d'un entretien qu'ils ont fait montre en fait comment des enfants, de milieux sociaux très aisés, hein, bourgeois voire aristocrates, en fait. Baigne dans cette culture générale au quotidien.
Qui fait gagner
un temps précieux. Enfin, voilà, c'est un exemple très marquant, justement, dans cet extrait, où leur enquêtée disait que leur grand-mère, en fait, avait des fauteuils, enfin, son salon, c'était des scènes de la mythologie grecque, et ils ont passé toute leur enfance où leur grand-mère leur a raconté ces scènes de la mythologie grecque, et donc ils maîtrisaient ça quelque part presque par cœur, sans s'en être aperçu, et forcément, quand on a une dissertation en littérature, en philosophie, eh bien, ce sont des connaissances qu'ils ont pu remobiliser extrêmement facilement. Et donc, c'est la question de la socialisation et de l'imbrication des différents capitaux.
Et du temps qu'on gagne dès le départ. Mais à propos de temps perdu, et c'est vraiment la dernière question d'approche de la fin, Imène Bounou, les réseaux sociaux, c'est quand même un endroit où on perd énormément de temps.
Ah bah ça, 4 heures par jour, c'est énorme. Hein. Donc effectivement, donc autant le tirer à profit. Et quand même faire de la prévention. Mais sur la durée que l'on passe.
Voilà, est-ce qu'il y a un côté influence, regagner de son temps,
oui,
se limiter?
Tout à fait. Et surtout, effectivement, je parlais du village pour les enfants, mais en fait, il n'y a pas que les réseaux sociaux. Donc, les podcasts, les cours, les sorties, l'extérieur, c'est important pour cette socialisation et pour cette réussite scolaire. Donc oui, les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut y aller doucement.
Merci beaucoup à tous les trois. On peut aller sur le site de l'étudiant, on peut lire Anne-Claudine Holler sur le coaching scolaire. On peut aller voir votre compte Imène Bounou sur Instagram, on peut visiter toutes les plateformes. Toujours plein de choses à voir pour réviser et reprendre du temps pour être ensemble et travailler et apprendre, par exemple en écoutant la radio. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce soir.
Merci.